Voilà. Bien, bonjour mesdames, messieurs. Donc on a quand même un taux de participation qui est élevé. Aujourd'hui, on doit être 24-25 sur les 30 participants voyage. Donc il y a deux personnes qui ne sont pas... Enfin, il y en a même trois, puisque Tournus, on va dire, c'est loin. C'est un pays étranger. Hein, donc le couple Gaudry... qui on en avait parlé, donc ils sont pas de l'UTB, mais on les a quand même acceptés, hein, parce que c'est des gens sympathiques. Hein. Donc Annie Huard, qui est ici, la dame qui est ici, qui est une amie du couple Bonnemain-Bellerger, et qui a participé à la composition de la plaquette des 30 ans, hein, puisque son métier c'est graphiste. Hein. Donc on la remercie encore. On lui a payé un beau gueuleton, mais ça ne suffit pas. Donc voilà. Voilà. Et donc, il y a M. Guillou qui fait partie de l'UTB d'Auxerre. Parce que j'étais allé faire une conférence à Auxerre, j'ai eu la maladresse de parler de notre voyage au Japon. Il m'a sauté dessus. Et donc, je n'ai pas pu refuser. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, donc Pierre Alliot, vous vous levez encore. Donc, Pierre Alliot, donc professeur d'histoire au lycée Pontus. Alors, on est en train de finir l'histoire. Oui, il est en principe. Alors, expliquez.
Cette année, puis en fait, j'étais, pour diverses raisons, obligé de prolonger avant. Donc, du coup, je ne suis pas en retraite. Alors, comme on part une semaine avant les vacances de tout ça, ben, je rattrape les cours avant, après, etc. Voilà. Je fais cours en prépa, je ne peux pas les étonner. Donc, voilà. Mais bon, ça ne pose pas de problème. Je le rends pas. Il n'y a pas de souci.
Donc, c'est moi qui ai écrit la lettre pour demander un billet d'excuse, voilà, que son principal lui a accordé. Voilà. Voilà.
Et avec une décentralisation, c'est bien, parce que maintenant, c'est le chef d'établissement qui donne l'autorisation, alors que c'était le recteur, ça n'aurait jamais marché. Donc, ça, c'est le gros avantage.
Bien, je rappelle, finalement, l'idée de ce voyage est venue un petit peu de discussion qu'on avait eue avec Pierre Alliot, puisqu'on a eu un cycle depuis 2011-2012, je crois, et puis il y a eu des interruptions, sur l'histoire du Japon, la Corée, tutti quanti, et donc, il avait eu l'occasion de faire un voyage d'études, mais il y a un certain temps.
Oui, c'était en 95, c'était avec la Fondation du Japon, c'était une mission ministérielle pour faire une évaluation des deux systèmes d'éducation, donc j'étais resté 3 semaines donc, au Japon dans ce cadre-là.
Donc il a envie d'y retourner.
Voilà.
Donc... Et malheureusement, son épouse a encore un an de plus à faire. Donc, un billet d'excuse, ça va. Deux, bonjour les dégâts, quoi. Voilà. Voilà. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est qu'on balaye quelques sujets d'intendance liés à l'organisation du voyage et parce que je ne suis pas peut-être capable de répondre à toutes les questions, mais de noter vos préoccupations, les choses comme ça. Et je rappelle qu'on a prévu, on a dû le mettre dans les mails, une deuxième réunion qui serait le 30 septembre, au cours de laquelle on distribuerait les carnets de voyage. Donc la demande est faite et a priori ça va marcher. Bon, voilà. Pour ceux qui ne sont pas là, ben on se débrouillera pour leur faire parvenir. Voilà. Par exemple, pour vous, je pense que vous ne serez pas là, donc on vous le fera expédier à votre domicile à Paris, hein, comme M. Guillou, pareil. Et puis Pierre aussi, à moins que tu veuilles venir le 30. Oui, vous aussi, à votre domicile. Donc, je vais peut-être le marquer, ça. Donc, Perret. Carnet de voyage, donc Annie Huard, carnet de voyage. Donc Pierre, tu viendras le 30. Qui est-ce qu'il y a d'autre là? Donc Monsieur Guillou, qui n'est pas là. Guillou, CV. Voilà. Sinon, voilà. Alors, je rappelle une fois que l'idée, pourquoi on s'est finalement lancé, c'est que moi, je suis abonné à un certain nombre de sites de voyage, de choses comme ça, et l'année dernière, j'ai reçu des offres qui étaient vraiment plus basses que les tarifs habituels sur le Japon. Parce que le tarif syndical sur le Japon, c'était plutôt 5-6 000, hein, si vous avez regardé. Alors, bon, J'ai demandé. Et puis, donc, le tour standard, c'est celui qu'on avait imaginé au départ. Donc, Tokyo, Nara, Kyoto et puis Hiroshima, aller-retour. C'était entre 2005 et 2008, suivant le nombre de personnes. Donc, ben, on part là-dessus, et puis après, on a évolué, donc on a proposé l'extension que finalement tout le monde a prise, pour voir, non, sauf des dissidents, mais qui veulent faire autre chose. Voilà. Et donc, je rappelle que l'intérêt de cette extension, c'est surtout d'aller sur la côte ouest, c'est-à-dire sur la mer intérieure, et on verra le Japon, d'abord la campagne, parce que du côté le Shinkansen, on voit beaucoup, on voit le Mont Fuji, mais on voit surtout beaucoup de maisons, hein, et d'immeubles. Mais d'aller dans. Cette côte a été complètement détruite par les Américains pendant la guerre. Donc tout a été reconstruit, toute la quasi-totalité date de l'après-guerre. Hein. Et donc au nord, eh bien, on a des choses qui sont plus anciennes. Donc on verra ça et c'est noté comme bien. Voilà. Alors personnellement, moi j'ai eu l'occasion d'aller deux fois une semaine au Japon professionnellement, et j'avais réussi à combiner d'aller et à Kyoto et à Nara, donc je suis déjà allé une fois. Donc ça m'a aussi donné envie d'y retourner. Mais ça fait longtemps, moi c'était en 1990, donc ça fait un certain temps. Voilà. Bien, alors. On va essayer de noter, est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport à ce voyage, des questions d'intendance? Parce que je ne peux peut-être pas répondre à tout, et donc on peut les retransmettre à l'agence. Je rappelle donc c'est la Maison de la Chine à Paris qui nous a proposé ça. On a déjà fait le voyage en Chine avec la Maison de la Chine. On a fait même d'autres voyages à titre personnel avec la Maison de la Chine. On a toujours été contents et ils sont très, très compétitifs et ça marche bien. Moi, je n'ai pas de mauvaise expérience avec cette agence.
Oui, 10 jours 2, c'est très confus.
Oui, justement, donc, alors, vous voulez précision sur le jour 2?
Oui, c'est un peu bébé, mais l'eau.
Avant de faire ça, vous avez vu dans. Je ne fais pas ça dans l'ordre. Vous avez vu dans le mail, j'ai mis les références de ces deux bouquins. Alors ça, c'est un bouquin que j'avais acheté au Japon. Et c'est rarissime de trouver, enfin à l'époque, c'était rarissime de trouver un bouquin en français avec des petites images comme ça qui sont sympathiques, qui dit l'essentiel. Je l'avais acheté et donc Françoise a dit « Ah, c'est vachement bien ça, je vais regarder sur Amazon. » Et au miracle, sur Amazon, ça existe aussi. Donc, mais...
Alors, hier soir, il n'en restait plus qu'un et je l'ai pris.
Il
n'y
en a plus.
Il n'y en a plus. Alors, essayez. Ils vont peut-être recommander. Mais enfin, là, en trois semaines, je ne sais pas si... Alors, si vous ne l'avez pas, donc j'ai fait une photocopie un peu sélective de pages qui paraissent intéressantes. Ça représente une petite moitié, on va dire, des pages, parce qu'il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont évoqués. Donc, c'est le mode de vie, on va dire, tout ce qui concerne directement le mode de vie. Donc, alors, parce qu'effectivement, comme je l'ai tiré en grand format, les gens ont dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors, je vous montre la taille du bouquin. Si vous avez la chance de le trouver, bah, venez au Japon, puis vous l'achèterez là-bas. Ouais. Et ouais, ça tient quand même dans la poche. Hein. C'est un petit fascicule qui tient dans la poche. Deuxièmement, ça. Alors, essayez d'aller à Chalon dans une librairie pour trouver ça. Alors là, vous avez la réponse qui fuse instantanément. On va vous le commander.
Non, c'est peut-être que... Je l'ai trouvé tout de suite.
Hein, tu l'as trouvé tout de suite?
Oui, mais là, le dernier.
Non, mais parce qu'ils ont vu qu'on faisait un voyage au Japon. Ils ont dit qu'il va y avoir de la vente. Bon. Mais je n'ai pas d'exclusivité. Je vois qu'il y a des gens qui ont acheté le guide bleu et tout. Bah, vous achetez tous les livres. Alors, toi, Jacqueline, tu recommandais, tu avais des livres. Voilà, alors ce que l'on peut faire, tu m'enverras les références de ces machins-là et on les remettra dans un mailing suivant pour que.
Les écrits du bouddhisme,
oui.
L'éloge de l'ombre, et puis un bouquin de Méheux qui a été en 14 au Japon et qui a fait de la peinture.
Donc tu mettras les références et puis on vous les communique. Hein. Bien. Alors, je reviens aux questions.
Question d'intendance, alors.
Oui.
Il y a un moment où il faut qu'on abandonne...
L'histoire du sac.
Oui, l'histoire du sac. Alors, moi qui ai du mal un peu à marcher et à porter, je voulais savoir comment ça se passait, là.
Alors, donc, j'en ai discuté donc, avec l'agence, et la solution, le sac, c'est... Et elle dit, il n'y a pas d'alternative, c'est le sac à dos.
C'est le sac à dos.
C'est le sac à dos. Le sac à dos de... capacité raisonnable, parce que c'est nous le problème, nous ne sommes pas japonais. Alors pourquoi il y a cette contrainte là? C'est que dans le Shinkansen, il n'y a pas de soute à bagages. Dans les TGV, il y en a. Pourquoi? Parce que la capacité est beaucoup plus grande qu'au niveau nombre de passagers. Personnes. Et en plus, les Japonais voyagent léger, pour pas dire super léger. Vous voyez tous les hommes d'affaires, ils ont un petit attaché-caisse microscopique, vous dites ben, il a trois papiers dedans, non, il a sa brosse à dents, sa chemise et son slip, je pense, bon, enfin, le linge de corps, le minimum. Et donc les Japonais sont habitués à voyager léger. Nous Européens, si on n'a pas toute notre garde-robe, nos médicaments, les trousses de toilette, les bazars, les trucs, on est perdu, hein. Donc ben, prévoyez ça. Alors pour les personnes qui sont toutes seules, ben, il faut prévoir tout. Tout votre gadget d'intendance plus le change que vous souhaitez avoir. Pour ceux qui sont en couple, il y en a un qui prend bah, vous débrouillez.
Donc, on va se partager.
Mais je veux dire, on
ne
peut pas prendre une valise à roulettes, par exemple. C'est une petite valise à roulettes.
Vous pouvez, mais vous allez la tirer pendant des kilomètres avec les roulettes. Donc ça va être. Elle m'a dit, dans certains sites, en fait, il y a une approche avec un bus. Le bus s'arrête à 1 km, 2 km de l'endroit où on visite. Et là, en général, il y a des hôtels. Donc, la pratique, c'est, au lieu de se trimballer avec tout son bazar, on s'arrête à l'hôtel, on met les bagages, même le bagage dit à main, on le met à la bagagerie et on y va qu'avec le minimum pour faire la visite. Si vous voulez. On n'est pas obligé de se trimballer, c'est 7 ou 8 kilos sur le dos pour faire toute la visite. Oui.
Il n'est pas peut-être clair dans ce que ça nous a été donné. La première fois que je suis allé là-bas, on s'est débarrassé d'un certain nombre de choses à Tokyo.
Oui.
Si vous avez dit que vous prenez que l'essentiel.
Oui.
Et puis, vous n'avez pas dit qu'on amenait ce qu'on s'était débarrassé. On a récupéré les affaires à Tokyo 3 semaines plus tard.
Oui, mais là, ça dure moins longtemps.
Et on avait un petit sac pour faire le tour du... Alors, est-ce que là...
ça dure deux jours.
Est-ce qu'on a besoin de vous rejoindre à l'hôtel ou est-ce que ça reste à Tokyo?
Ça reste
non,
alors,
ça va, je sais pas.
Voilà, la phase où on a besoin d'un bagage dit à main, qui est plutôt à dos, et ça ne dure que 2 jours.
Hein. Oui, ça en fait c'est 3 jours.
Voilà.
C'est 3 jours.
Alors le sac, on va le promener pendant
oui.
3 jours. En fait, il faut
un... Sauf que quand vous faites les visites, je vous ai dit, il y a une dépose pas très loin dans un hôtel, dans une bagagerie d'hôtel. Pas très loin. Mais elle m'a décommandé le sac à main ou le sac à roulette. Parce que
voilà, c'est un sac avec une
bandoulière.
Plutôt les deux.
Ça va.
Vous faites comme vous voulez, mais vous ne viendrez pas pleurer après que vous en sortez pas. Hein.
J'ai cru comprendre que les affaires qu'on se débarrasse avec
le sac
nous rejoignent 2 jours plus tard là où on est.
Oui.
Oui,
3 jours plus tard.
Munissez-vous d'un bagage à main contenant pour 2 nuits.
Voilà. Il y a
2 nuits. 3 jours.
Voilà, c'est l'encadré.
On part un matin.
C'est l'encadré qui est sur la page jour 4.
Voilà, exactement.
C'est 3 jours.
Voilà. Ça fait 2 jours. Voilà. 2 nuits.
Bon, c'est tout ce que j'ai pu obtenir comme renseignement complémentaire. Mais elle m'a dit très fortement, je vous conseille vivement un sac à dos à deux bretelles et de capacité suffisante en fonction de ce que vous souhaitez emmener. Voilà.
Bon, je n'ai pas la réponse, mais je vais en téléphoner pour la conférence.
Comment ?
Parce que
je
connais
le
sac au
pied,
nous
rejoint
sur un jour plus tard.
Oui,
c'est ça. Oui, c'est sûr. Oui, non, mais si c'est le numéro de la salle ici, c'est que ça peut changer.
C'est pas
Alors ensuite, l'argent, ben, vous prenez des euros et des cartes, hein. Les euros, ils connaissent. Hein. Voilà. Comment? Oui.
J'ai entendu
dire que les
cartes de crédit ne marchaient pas forcément.
Non, tout le monde distribue.
Jamais.
Oui, Jacqueline y est allée au printemps là, dernier, donc elle a une expérience.
Non, mais dans les grosses banques, ça marche.
D'accord.
Mais
bon, après, il faut avoir des exceptions.
Mais il y a aussi.
Ça a évolué quand même.
Hein?
Je me suis évolué.
Ils aiment bien les euros.
Alors je rappelle, les 110 euros pour lesquels on vous a taxé, ça couvre le frais du transport en bus aller-retour à Saint-Exupéry et une provision pour les pourboires. C'est moi qui paierai les pourboires au guide, entre parenthèses, disons, le guide accompagnateur plus les guides locaux dans les visites que l'on fera. Hein, voilà. Comme ça, on fait ce système-là depuis plusieurs années. Ça évite de faire passer les enveloppes dans le bus. Enfin, c'est toujours le bazar. Donc, c'est plus... Oui ? C'est plus simple de faire une cagnotte. Par contre, il faut pas que je les perde. Voilà. Parce que ça finit à 30, 110 euros multipliés par... Enfin, je ne prends pas l'équivalent de 110 euros. Ça doit être... je crois que le poids du bus, ça doit être 35. Je dis ça de mémoire. Donc la différence, bah, c'est la provision pour boire. Donc multiplié, mettons, 80 par... 80 multiplié par 30, ça fait 2400 euros en liquide.
On a une idée du prix des repas.
Alors, Jacqueline, l'idée du prix des repas par rapport au standard.
C'est pas cher du tout.
C'est pas cher.
Ça dépend comment.
C'est bien le souvenir que j'en avais, c'est pas cher.
C'est pas cher du tout. Sauf si vous mangez de la viande, du.
Oui.
Pour manger du Kobe, là c'est grave. Mais vraiment, si vous mangez des sushis, les bento, oui. Ce sont oui. Des trucs pour les pique-niques, là où il y a du poisson, du tofu, beaucoup de navets, beaucoup de tempura. Je mange beaucoup de tempura, de toutes sortes, hein, crevettes, machin, tout. Et les petits bento, ça coûte vraiment plus cher. Pour les pique-niques, par exemple, et pour le soir.
Le soir c'est inclus, mais de toute façon on fait léger. L'expérience même des voyages où.
Et puis autrement, le seul qui a de la bière, il va de la bière.
À midi, on fait léger. Enfin, c'est
même.
On perd pas de temps.
Voilà, on perd pas de temps.
On perd pas de temps.
On en trouve à Chicoku, il y en avait pas mal parce que c'est une île très paysanne. Il y a des mousses, des mandarines, etc. Mais dans les Yoku, on n'y fait pas dans les Yoku, on n'y fait pas dans les hôtels. Juste de la, comment ça s'appelle, la rouge là, la pastèque. Alors, quand je me suis fait des magasins, on peut acheter des fruits. On peut acheter des fraises. Ah oui, il y a des magasins, on peut acheter des fruits.
Est-ce qu'on peut manger aussi du poisson cuit?
Oui, mais la plupart du temps, c'est du poisson cru quand même.
Il y a des volcans, il y a des inondations, il y a des tremblements de terre, tout le temps. Donc ben voilà, on va faire une prière Shinto et puis voilà. Alors j'ai demandé de personnellement quand on a.
Oui. Dans 4 tremblements de terre, il faut se mettre sous les bureaux.
Oui, oui.
Il y a 3 jours.
Comment ?
Oui, on a vu.
Mais il y en a tout le temps. Ah, maintenant, réalisez tout ça, vous savez qu'il y a le volcan dans l'île du Sud, là, qui s'est réveillé.
Oui,
c'est
réveillé. Au moins, je trouve.
Bien. Alors, dans le voyage, par rapport au circuit standard, je vais faire ajouter deux choses, enfin, plusieurs choses, mais des choses qui ne sont pas faites en général par les touristes. c'est la visite du marché aux poissons de dessus.
Ouais.
Alors ça, je l'ai fait, et ça, ça vaut le coup, ça vaut doublement le coup, parce que ça va disparaître l'année prochaine. Parce que il y a déjà 10 ans que Tokyo veut le supprimer. C'est archaïque au sens du modernisme. Mais il y a eu des recours, des machins, ça a patiné, donc c'est toujours pas cassé. Ou au moins, il en reste quelque chose. Et la crier au thon dans le marché, c'est un spectacle enfin, extraordinaire. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours, mais on verra bien. Hein. Donc, il y a une particularité, c'est qu'on ne peut pas y aller en groupe. C'est interdit aux touristes, au sens de dire, il y a un gars avec un petit drapeau puis qui circule dans les allées. Donc, le guide nous pose, on y va en métro, c'est très tôt le matin, nous pose à 100 mètres en sortant du métro. Il vous dit, ben, c'est là-bas, puis là, je vous retrouve, vous avez 2 heures, et je vous retrouve au même endroit dans 2 heures. S'il n'y en a pas, on laisse les gars au marché aux poissons, puis on continue le circuit. Hein. Voilà. Et donc, on passe dans les allées. Alors, pour faire court, il y a la criée elle-même qui est près des quais. Donc, il y a des immenses hangars où on voit des thons congelés qui viennent des bateaux usines rangés en deniaux. Là, il y a la criée avec tous les jappeurs japonais, je peux vous dire que là c'est spectaculaire, qui fait la criée, une fois que, pour tous les poissons, hein. Et ça c'est le marché de gros, et après il y a une couche de semi-gros qui fait la préparation finalement des poissons pour que tous les restaurants et tous les marchands de poissons de toute la ville soient approvisionnés. Et là il y a une nuée de triporteurs qui viennent, ou de motos, où les petits restos viennent s'approvisionner. Donc ça grouille, c'est comme le souk à Fès ou à Marrakech, hein. C'est absolument impressionnant. Et donc c'est très spectaculaire. Donc j'espère qu'il en restera quelque chose, sinon à partir de l'année prochaine, tout va être fermé, ça va être détruit, ça va être un truc tout électronique, avec des trucs clean, avec des frigos, des machins comme ça, on ne verra plus rien. Donc ce sera terminé. Tout cet aspect exotique sera terminé.
On peut faire des photos quand même.
Ah ben, on fait des photos. Mais personne n'est dupe. Au niveau, on voit bien qu'on est, qu'on est des touristes. Mais ce qu'ils n'aiment pas, ça se comprend aussi, c'est assez serré, les allées sont assez étroites. S'il y a un troupeau de 30 personnes qui s'agglutinent devant une échoppe, bon, ben, ça empêche les gens de passer parce que ça circule dans tous les sens. Donc il faut y aller en petit groupe pour. Il y a suffisamment de surface pour se répartir. Deuxième chose que j'ai demandé, parce que je connaissais, donc, c'est de faire un stop, ça c'est du shopping, au Kyoto Handicraft Center à Kyoto, qui est un espèce de building qui fait 10 étages, où vous avez toute la palette d'artisanat que vous pouvez imaginer. La céramique, les trucs peints, enfin les pinceaux, les kimonos, les trucs de guerre, enfin tout. Et là, vous voyez des gens, des artisans qui font des démonstrations, et vous avez la boutique à côté, qui ça se fait aussi beaucoup en Chine, ce système-là. Où il y a
le musée des arts populaires,
Comment ?
Au musée des arts populaires.
Non, mais il y a aussi, dans les musées, on est plutôt dans une logique de boutique. C'est-à-dire, on voit le musée, puis après, on passe à la boutique.
Parce que dans le musée, ce qu'ils nous disaient au Japon, c'est que le musée des arts populaires, par exemple, pour acheter un couteau japonais,
oui.
C'est là où ils sont les meilleurs.
Oui, ah ben sûrement. Par exemple, il y a aussi une chose qui est populaire, c'est le cloisonné, vous savez. Le cloisonné, c'est-à-dire les émaux qui sont dans des petits dessins en laiton, qui sont soudés, puis ça vous fait des images. Et on doit faire des cloisonnés, mais pas seulement sur des bagues, hein, des cloisonnés qui font comme ça. Hein. J'en ai un à la maison, je ne l'ai pas amené, mais voilà. Ok, donc en dehors de ces... Alors, la tendance pour le bus. Donc... il faut partir à 3h-5 pour le moment du voyage. Donc on fait comme on fait d'habitude avec Lu. On vient en voiture chez Lu Voyage. Tout le monde sait où c'est. À Lu. Hein. À Lu.
Oui,
c'est pareil. Donc on garde, on laisse la voiture sur le parking le temps du voyage. Donc c'est quand même surveillé. Et donc on monte dans le bus, on nous emmène à Saint-Exupéry, on fait les, enfin, on monte dans l'avion, hein, et au retour, c'est l'inverse. L'avantage, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas à scoltiner les voyages, les bagages pendant le... Enfin, ça fait le minimum de transfert. Alors, pourquoi est-on parti de Saint-Exupéry? C'est l'agence qui nous l'a vivement recommandé, parce que le départ de l'avion à Paris, il est à 11h. Et il a dit, avec le Vigipirate +++, un avion, c'est un bazar incommensurable, c'est l'heure de pointe plus les contrôles de sécurité qui sont absolument abominables. Donc elle a dit, c'est beaucoup mieux de partir très tôt le matin à Lyon, où en niveau de volume, il y aura 30 personnes qui feront ce transit. Donc on aura le temps de faire les choses normalement. Et puis après, à Paris, on fait le transit et on ne se casse pas le cocotier avec les problèmes de bagages. OK ? On souffrira au retour. Bon, à Osaka, parce que là, c'est Osaka. Hein. Donc, les horaires d'avion peuvent éventuellement changer. Donc, c'est Air France aller et retour sans escale, sauf pour ceux qui font des dérivations, puisque Françoise et Serge repassent en Chine au retour. Parce qu'il y avait une formule tout à fait dans les premières propositions où il y avait des escales à Shanghai ou à je ne sais plus où. Et c'était Air China, et donc là, c'est Air France. Et là, pourquoi on a le prix qu'on a, qui peut paraître déjà cher? C'est tout simplement, on a eu un cas où Mme Potier, donc comme Annie voulait être en chambre individuelle, Mme Potier devait être avec elle. Mme Potier, c'est la dame qui est là derrière, donc que vous ne voulez pas. Et donc, on a dit, si vous voulez aller avec... Donc, Mme Potier a proposé que son amie, qui est la première sur la liste d'attente, parce qu'on a une liste d'attente, hein, s'inscrit. Donc on a dit, il faut qu'on vérifie si on a une place sur l'avion. Donc on a eu le retour 2 jours après. Il y a une place, c'est 800 euros de plus. Voilà. Donc last minute, là c'est pas 0 euros, c'est donc c'est des prix. Alors on avait une petite inquiétude, ça je le dis maintenant, c'est qu'avec le yo-yo qui a fait le prix du pétrole et le yen et l'euro, apparemment tout ça, ça s'est compensé et le tarif de la dernière échéance n'a pas été modifié. Mais à un certain moment, dans les contacts que j'ai pu avoir avec l'agence, on se posait quelques questions. Voilà. Donc on n'en parle plus. Alors, qui n'a pas été débité? Pour ceux qui payent avec la carte, qui n'a pas été débité?
C'est à la fin du mois, tu sais.
Non, mais vous avez regardé sur votre compte?
Ah ben non, vous... Moi, j'ai téléphoné parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait remplir à nouveau un formulaire. Oui, oui. Et finalement, moi, j'ai payé par téléphone. Quoi.
D'accord.
C'est
bizarre. Mais...
Ah non, moi j'ai vu, mais ça va être
bien. Oui, mais moi j'ai pas reçu
avant.
J'ai envoyé sur leur relevé.
C'est marqué sur leur relevé.
Mais apparemment, donc la personne qu'on a comme interlocuteur qui s'appelle Isabelle Bigeon, c'est pas elle qui s'occupe des encaissements, donc c'est le service.
Mais apparemment, on était. Vous avez
pour elle. Oui. Ils n'ont aucune inquiétude, mais enfin, le fait que vous ne soyez pas débité, ne vous affolez pas, c'est tout simplement parce que la démarche n'est pas encore faite. Je l'évoque pour que vous disiez pas, on n'est pas débité, donc il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on est bien inscrit. Je vais pas répondre à la question. Je ne sais pas si vous avez vu que l'euro, en 4 jours, il a bougé de 5%. Il est passé de 1,10 à 1,15 vis-à-vis du dollar. Donc, quand vous donnez la réponse à la question, là, il faut faire le taux de change avant de monter dans l'avion. Quoi. Ça change tous les jours. Et il suffit que la Fed fasse une montée des taux d'intérêt, ça va foutre encore la pagaille sur les bourses. Et tout ça, ça va faire le yo-yo. Mais
on pourra, pour la Pologne, avoir la liste des participants.
Oui. oui, oui, bien sûr. Donc, oui, Simone nous demande, donc on distribuera à tout le monde la liste des participants avec les noms. On pourra même faire un effort pour mettre un petit trombinoscope. Voilà, pour qu'on se connaisse. Mais enfin, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont là dans le voyage qui se connaissent déjà. Non, mais c'est plutôt pour les...
Hein? On oublie les noms.
Voilà, voilà, voilà. Voilà. Bien, pour l'intendance, moi j'ai plus grand... Alors, si vous avez des questions que vous, auxquelles vous ne pensez pas et que vous souhaitez poser, eh bien, faites-nous le savoir par mail, qu'on ait le temps de questionner à nouveau l'agence.
Et la météo à cette époque-là.
C'était le premier. Je regarde périodiquement sur AccuWeather. C'est 18, 19, c'était à 21-14, pendant assez longtemps. Et puis là, ça descend, mais il pleut. De toute façon, il pleut.
Le 10, il devrait faire. Donc
ça descend vers 17.
Le 11, le 12.
Il n'y aura pas de typhon, il n'y aura pas de typhon. La saison des typhons, en principe, est passée. Oui, celui qu'il y a eu, c'est le dernier. La saison des typhons, c'est juillet, août, et on va dire la mi-septembre.
Il y aura peut-être de la pluie.
Oui. Comment? Oui.
On ne laisse pas de pourboire.
Oui.
Non.
Bah oui, mais c'est pas partout comme ça.
Oui.
Il n'y a pas de pourboire.
Oui.
On paye la note au restaurant. C'est
oui, oui, oui. On ne laisse pas de pourboire en individuel, mais vis-à-vis des musées, bon, on verra avec l'agent. À minima, le guide accompagnateur, on fait le pourboire habituel, comme dans tous les voyages.
Et puis, vous avez vu que la tension électrique au Japon, c'est 100 volts.
Oui.
Ah, il faut que
les appareils de 100 volts, ça marche.
Oui, oui.
Normalement, les chargeurs pour les caméras et appareils photo fonctionnent en 110, 200,
voilà.
50, 60 Hz.
Voilà.
Ils convertissent de toute façon.
Voilà. Voilà.
C'est vraiment une clé.
Voilà. Voilà. C'est des prises américaines.
Oui, oui.
À lame plate.
Et quand on arrivera à l'aéroport de Tokyo, on aura le temps de charger un peu d'argent.
On le prendra. Parce que ça, c'est classique. Et souvent, le guide dit on fera ça à l'hôtel. Ben
justement,
et ça ne marche jamais, ça. Alors là, on sera impératif en disant que tout le monde puisse avoir une petite bourse pour amorcer la pompe au niveau du change. Parce que ça, c'est toujours très désagréable dans les voyages. Si à chaque étape, il y a une personne qui dit ben, « moi, je vais aller au distributeur, au DAB, le machin, parce que déjà, il y a la queue, puis ça ne marche pas, puis il ne comprend rien, qu'est-ce que c'est, le machin. » Donc, si chacun fait ça individuellement, à chaque étape et tout, on l'a même encore vu en Pologne, on perd un temps fou. Donc, il faut qu'on se mette d'accord avec l'accompagnateur en disant « eh bien, le jour 2, voilà. Vous prenez de quoi faire tout le voyage ou la moitié du voyage, mais on ne passe pas notre temps à aller courir dans les banques et aux distributeurs. Hein. Parce que surtout si nous sommes 30, ça va
vite être.
Voilà, et qu'on le fasse tous en même temps. Quoi. Et donc on dit, on va griller une demi-heure ou une heure pour faire ça, et quitte à ce qu'on se répartisse en plusieurs banques, on l'a fait dans
les achats. Voilà. L'achat et le restaurant, ça peut
se
payer directement à carte.
Oui, oui, oui. Non, mais l'achat, c'est en liquide. Hein. Bon, on va laisser la parole à Pierre Alliot, s'il veut dire quelques mots en général sur le Japon.
Oh non, rien de très particulier. En plus, aujourd'hui, j'ai un problème. J'ai enlevé, comme vous avez vu, donc je ne peux pas tellement parler. Non, simplement, les souvenirs que j'ai du Japon, etc., sont un pays facile, mais un pays qui est quelquefois surprend un petit peu. Donc, notamment, lorsque vous avez un guide et que par hasard, vous posez une question au guide et on dit on pourrait aller par là alors qu'il a prévu à côté. Bon, bah, comme c'est prévu, ça le perturbe un petit peu. Donc, il va vous dire oui, mais bon, il faut le laisser un petit peu bon, réfléchir véritablement. Sinon, on est toujours très bien accueillis. Hein, ça, c'est vraiment une constante. Hein. Et puis, à chaque fois, si on est perdu, bon, on nous remet sur le droit chemin. Par exemple, pour aller, notamment, comme on disait...
Tsujiki.
Voilà. Oui, puis aussi pour ce qui est donc, du marché aux poissons. Oui. Moi, je l'avais fait également. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et quand on est perdu dans le marché aux poissons, parce qu'il y a quand même de quoi se perdre, il y a des petits camions donc électriques dans tous les sens, etc. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment cool. Et là, bon, bah, il y a toujours quelqu'un qui vient vous prendre en disant bah, il faut aller voir ça, etc. C'est vraiment bien. Non, franchement, puis alors vous avez une impression partout au Japon d'une grande sécurité, aucun problème. Donc, ça, quel que soit le quartier où vous allez, il n'y a aucun souci de quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un pays, moi je sais qu'il m'avait vraiment beaucoup plu. Et puis, bon, bah, après, on verra un peu en fonction d'endroit où on sera. À ce moment-là, on peut faire un petit tour, complémenter à ce besoin, etc. Mais là, vu le programme qui a été fait, c'est vraiment un bon programme. Quoi. On va voir plein de choses. Moi, je suis un peu comme vous, je connais une ou deux choses, mais pas tout. Donc, c'est pour ça que...
C'est pour ça qu'on y retourne.
Oui, ça vous rappelle. Puis même, refaire ce qu'on a déjà vu, voilà. Ça vaut vraiment... Non, là, je pense qu'on a un bon programme. Et puis, le résultat, je pense qu'on sera...
Non, puis dans les transferts... enfin, dans Shinkansen, c'est difficile, mais dans les transferts en bus... On a des petites pauses dans lesquelles on peut faire des petits exposés de 10 minutes, parler ceci et ça. Alors, je rappelle, ce sont des Asiatiques, donc Asiatiques égale ne jamais perdre la face.
Ah, c'est
donc c'est ça qui nous trouble, si vous voulez, c'est que ils disent toujours oui, mais quelquefois ça veut dire non, parce que on ne met pas ça,
Ben, si on vous dit, par exemple, demander quelque chose, qu'on dit oui, donc je vous revois cet après-midi, ça veut dire que ça ne peut pas se faire. C'est aussi bête que ça, une fois sur dix. Par contre, la personne après va revenir en disant, on peut peut-être trouver autre chose. Et comme ça permet à chacun de trouver dans son compte.
Ça dépend beaucoup de du guide accompagnateur qu'on a. Soit il a une culture occidentale importante parce qu'il a fait un séjour longue durée en Occident, donc il connaît les façons différentes d'apprécier les choses. Soit c'est le Jap qui a pris le français sur des cassettes, comme on voit dans beaucoup de pays. Mais en fait, il ne connaît la France qu'à travers des choses. Alors là, quelquefois, ben, c'est un peu difficile.
Il y a aussi une chose qu'il faut penser, c'est au niveau de la langue, justement. On a l'impression qu'au Japon, l'anglais, ça passe partout. Alors, c'est complètement faux.
Non.
Là, il y a très peu de Japonais qui parlent anglais. Et donc, si vous pensez dans le métro, vous en tirez en parlant anglais, ce n'est pas du tout garanti sur facture.
Ne vous aventurez pas, ça je vous le dirai, dans les grandes villes, ne vous aventurez pas seul dans les métros, pas du tout, parce que vous faites deux tournants, tout est en japonais, et tout se ressemble, et vous, moi plusieurs fois, à Osaka, j'ai failli me perdre comme ça, et donc au moment où j'ai pris conscience que je m'en sortirais pas, j'ai réussi à faire le chemin inverse, jusqu'à la bouche où j'étais rentré, parce que dans le métro, en particulier à Osaka, il y a 10 épaisseurs de couloirs, de galeries marchandes, les unes au-dessus des autres. C'est une fourmilière, au sens propre, au sens figuré. Donc, et tout se ressemble. Donc, quand vous êtes lâché là-dedans, vous êtes perdu.
Par contre, ce qui est intéressant, ce qu'on peut faire pendant le voyage d'avion, parce qu'il est quand même relativement long, c'est avaler un certain nombre de kanji japonais qui indiquent l'entrée, la sortie, etc. Et ça, c'est vachement utile. Hein. Bon, parce que tout de suite, on repère tel ou tel, et ça, ça vaut vraiment la peine.
Les kanji, c'est l'alphabet chinois.
Oui. J'avais vu, je me disais, bon, c'était amusant, de nous, à l'époque, puis c'était une mission d'éducation, on a vu comment les petits, donc les écoles primaires, apprenaient l'alphabet. C'est absolument extraordinaire. Alors après, donc vous, on en mémorise un certain nombre et ça nous aide tout de suite. C'est clair.
Oui. Quelque chose de facile dans le métro, c'est que comme chez nous, donc il y a la ligne du métro, on va aller au gare, pour repérer celle où on doit sortir, et par contre, il y a une petite lumière qui avance régulièrement là pour donner la position.
Mmh.
Et alors quand on arrive à l'avant-dernier, on se dira que c'est la prochaine fois. Mmh.
Par exemple, là on ne prendra pas le train, mais dans le train, c'est très compliqué par rapport à notre culture européenne. Oui. Dans chaque gare, dans les grandes gares, il y a 5 compagnies de chemin de fer. Dans la même gare. Alors, il y a toute une série de guichets. Ah, vous, mais ils sont, alors moi, ça m'est arrivé, je suis allé, disons, sans peur ni sans reproche, de Kobe à Nara en train. Alors, vous passez, donc dire Nara, c'est pas difficile, même en français. Donc, vous dites Nara, alors il vous fait signe, le guichet d'à côté. Donc, le temps qu'il y en ait un qui accepte de vous donner votre ticket, alors après, vous achetez votre ticket pour aller à Nara. Puis, vous regardez le ticket, évidemment, c'est tout en japonais. Où est-ce que je vais prendre le train pour Nara? Alors, machin, donc bah, au bout d'un moment, vous êtes perdu et il faut demander à des gens qui sont sur le quai, là, puis, toujours très bien habillés, avec des gants blancs. Et vous savez qu'au moment où le train arrive et où le train part, le chef de quai salue le train. Vous verrez ça. Et, et comme les vendeurs ambulants dans le Shinkansen, il rentre dans le wagon, il salue l'ensemble des gens qui sont dans le wagon, il passe dans le machin, ils sortent du wagon pour aller au suivant, et ils saluent à nouveau toute la foule pour dire ben, à la prochaine. Voilà. Donc il y a tous, mais c'est ça, ce mode de vie est complètement différent d'une autre, donc c'est ça qui est intéressant à voir, donc de voir comment les gens font. Sur les quais, vous verrez, ben on vous expliquera tout ça. Il y a des petits couloirs peints surtout sur le Shinkansen, sur le quai. Et vous savez où va s'arrêter la porte du train. Vous êtes dans la voiture numéro 5, donc c'est comme chez nous. Mais chez nous, bon, ben, un troupeau qui s'agglutine vaguement à l'endroit où ça va s'arrêter. Non, là, il faut être à la queue leu-leu, entre les deux lignes. Et si on est en dehors des lignes... Le chef de quai vous remet dans l'axe, voilà. Etc., etc. Donc, c'est ça qui est intéressant à voir pour... Bien, moi, je vois plus beaucoup d'autres choses à dire. Donc, si vous avez des questions qu'on n'a pas évoquées, ben, faites-nous le savoir, qu'on puisse reboucler sur l'agence. Pour demander de plus grandes précisions. Et puis. Alors, est-ce que tout le monde a payé ses 110 euros?
Oui. Oui. Depuis peu, mais c'est fait.
Ben, Pierre, ah ben oui, je me disais, j'ai un doute là. Là. Donc écoutez bien les conférences de Pierre Alliot que je vous ai mises sur le site là.
Ça marche très bien.
Oui.
Et le midi par exemple, on n'a pas
du vin, c'est cher.
Mais ce qui est bien aussi, c'est les bols, pratiquement il y a tout un peu à la Corée, soit dit en passant. Vous avez dans un grand bol une soupe, etc., avec toutes sortes de nouilles, etc.
Mais alors, vous
vous faites votre repas de midi, c'est très bon. En plus, c'est très bon. Bien sûr.
J'ai oublié de vous dire, donc une information. Donc, j'ai demandé à ce que nous disposions d'audio-guides. Des oreillettes.
Ah, ça, c'est très bien.
C'est-à-dire que le guide parle dans un micro et on a les oreillettes. Et même si on est. Surtout, nous sommes 30. Hein,
oui,
donc, quand on est. Alors, ça a deux avantages. Ben, on n'est pas. On est un peu loin, on entend ce que le guide dit. Et en plus, dans les musées, on peut. enfin, s'égayer pas trop, hein, mais en entendant très bien ce que le gars dit. Hein. Donc, on avait prévu une petite réserve sur le budget global, parce que je me doutais, il y a toujours un imprévu de dernière minute, et c'est toujours très difficile de leur demander, ah ben, remettez-moi 40 euros de plus, parce qu'on veut se payer un audio guide. Donc, l'audio guide, on va dire, il est compris dans le package. Voilà. Mais voilà. Parce qu'on a expérimenté ça avec Capellazzi, et là on voit vraiment la différence. C'est vraiment très bien, Madame Potier, vous vous souvenez à Amsterdam. Là, lui, il le fait systématiquement, c'est prévu dans, et ça fait vraiment une différence. Surtout dans les musées où on ne peut pas japper, c'est le cas de le dire. C'est extrêmement pénible, machin. Puis maintenant, même les musées interdisent des manifestations sonores trop fortes. Hein. Donc, au musée Van Gogh là, à Amsterdam, là, c'est comme une chapelle. Et pourtant, il y a plein de monde et tous les gens ont ce système. Soit ils ont des audioguides qu'ils ont loués, comme ça se fait avec un appui sur des boutons, mais là, il y a bien quelqu'un qui parle, mais ça ne parle pas fort, et et tout le monde entend très bien.
On en trouve en France.
Oui, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs, il y a Paul qui me dit depuis des années, il faut que l'UTB s'achète ça. Je lui ai dit, il faut faire... Il faut mettre une cotisation à tous les voyages et dans 20 ans, on aura accumulé suffisamment de trucs pour se le payer. Donc ce sera pour l'UTB 2050. Non, le plus simple, c'est de le louer.
Oui, parce qu'en plus, ça évolue au point de vue.
Oui, c'est de louer à façon à chaque sortie. Quoi. Encore faut-il, on l'emporte pas dans la soute, hein, donc on prend un truc. En plus, comme c'est toujours japonais, donc c'est un peu idiot de l'emmener là-bas. Parce que vous avez vu la valise de Capellazzi, c'est une valise plus grosse que la nôtre, là, la valise de salle, et puis avec toutes les alvéoles, avec tous les appareils, les récepteurs. Voilà. Bon. Je n'ai rien de plus à vous dire et je vous remercie d'avoir participé à cette réunion.
Le gibleux, il est quelle année, hein, tout récent.